Nous avons pour vous aujourd'hui un sujet d'une grande actualité, la soumission. Quand se soumettre et quand ne pas se soumettre aux autres? Voilà toute une question. La Bible nous aide à trouver réponse à cette question. Bienvenue à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Claude. Le sujet d'aujourd'hui soulève bien des émotions. Nous parlons de soumission. Soumission des fidèles envers les dirigeants de l'Église, soumission des croyants les uns envers les autres, soumission de la femme envers son mari. Cette idée de soumission n'est pas très populaire autour de nous. Admettons-le, on tend à résister en général à toute forme d'autorité, ou au mieux, à l'endurer. En effet, se soumettre volontairement et avec amour à une autorité est plutôt rare aujourd'hui. Mais est-ce si important ou nécessaire d'être soumis à l'autorité? Et que veut dire au juste « être soumis » La parole de Dieu nous instruit sur ce sujet des plus importants en répondant aux questions suivantes. Est-ce que les dirigeants d'Église aujourd'hui doivent agir comme des commandants militaires? Quelle doit être la fondation de nos relations envers les dirigeants d'Église? Qu'est-ce qui doit caractériser mes relations envers les autres croyants? N'est-ce pas aux dirigeants d'Église de diriger l'Église? Dans le couple chrétien, que dire de la soumission de la femme envers son mari? Est-ce que la femme doit se soumettre volontiers à un mari qui ne l'aime pas? Jusqu'à quel point doit aller l'amour du mari envers sa femme? Que veut dire l'expression « le Seigneur Jésus sanctifie son Église » Et quel est le plus grand besoin du couple chrétien qui désire approfondir son amour l'un pour l'autre? Demeurez à l'écoute. Le pasteur Régent Joly se prépare à apporter des réponses tirées de l'enseignement de l'Écriture sur ce sujet. Mais d'abord, demandons au Saint-Esprit de nous éclairer et de nous enseigner. Prions. Seigneur Dieu, notre bon Seigneur et Sauveur, nous avons besoin de toi pour comprendre ce sujet de la soumission et de le mettre en pratique dans nos vies. Viens nous aider maintenant. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. À toi, Régent.
Merci, Claude. Chers amis, à la dernière émission, nous avons vu que Dieu utilise les croyants pour éveiller les morts et les léthargiques. Pour ce faire, la marche du croyant doit démontrer qu'il appartient à Dieu, et il doit racheter le temps, c'est-à-dire acheter des occasions de servir. Le croyant doit être rempli de l'Esprit, et pour ce faire, il doit demander quotidiennement à Dieu de le remplir de son Esprit. Nous savons que nous sommes remplis de l'Esprit lorsque nous louons le Seigneur de tout notre cœur. L'amour du croyant doit se démontrer par des actions. Nous avions vu l'histoire de ce chirurgien à qui une jeune fille avait donné 2 verres de lait alors qu'il prenait une marche en campagne. Peu après, cette jeune fille fut conduite d'urgence à l'hôpital car elle faisait une crise d'appendicite. Le chirurgien la reconnut. Il l'opéra et prit spécialement soin d'elle. Puis le jour où ses parents vinrent la chercher pour la ramener à la maison, ils virent cette note sur la facture. Acquitté entièrement par 2 verres de lait. Chers amis, il faut aussi se rappeler qu'obtenir la plénitude de l'esprit est aussi simple que faire un plein d'essence. Il s'agit simplement de la demander à Dieu lorsque nous voulons le servir et le glorifier de tout notre cœur. Nous allons maintenant débuter notre lecture, Éphésiens chapitre 5, les versets 20 et 21. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Les dirigeants d'Église ne sont pas des commandants militaires. Le mot « soumettre » est intéressant. Il ne signifie pas « obéir ». Paul ne dit pas que l'enfant de Dieu est un soldat qui reçoit ses ordres d'un officier de l'Église qui se prend pour un officier militaire. Nous recevons des ordres mais du capitaine de notre salut, soit Jésus-Christ. Josué pensait être le général des enfants d'Israël. Il vit un homme qui avait tiré son épée et qui se tenait près du camp d'Israël. C'est une histoire de l'Ancien Testament. Josué lui demanda, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Autrement dit, « Qui t'a permis de tirer ton épée ? C'est moi le général ici. » L'homme, qui était une christophanie, c'est-à-dire une préincarnation du Seigneur Jésus, dit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Vous pourrez lire cette histoire dans le livre de Josué, chapitre 5, les versets 13 et 14. Josué se jette face contre terre et il ôta ses souliers, car il était sur un lieu saint. Josué apprit qu'il servait sous un chef. Une relation de soumission biblique est fondée sur l'amour. Vous et moi sommes sous un chef, mais la relation n'est pas celle d'une autorité militaire, mais elle est fondée sur l'amour. Le Seigneur a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Il y a une autre façon de présenter ce commandement. « Si vous ne m'aimez pas, oubliez mes commandements. » Nous devons marcher ensemble en toute humilité. Nous voyons dans ce verset que nous devons nous soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Cela ne signifie pas que nous devons saluer un être humain ou nous incliner devant celui-ci parce qu'il a un grade supérieur au nôtre. Cela signifie que dans la crainte de Christ, nous devons marcher ensemble en toute humilité, sans avoir une opinion trop haute de soi-même. Si vous relisez les versets 1 et 2 du chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, vous verrez que Paul a débuté cette section en affirmant que nous devons marcher avec humilité et douceur. Mais notez que le chapitre 4 commence par « Je vous exhorte donc ». Ce n'est pas un commandement. C'est le langage de l'amour. Les flammes du mont Sinaï sont éteintes, et maintenant notre soumission est fondée sur l'œuvre du Seigneur Jésus accompli au calvaire. Elle est fondée sur la grâce de Dieu. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur. Éphésiens chapitre 4, versets 1 et 2. Nous ne devons pas essayer de diriger l'Église, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ceci signifie que vous n'essayerez pas de diriger l'Église. Les pasteurs, les anciens, les diacres et les membres doivent se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ. Il n'y a pas que notre façon de faire qui soit bonne. Nous n'avons pas le monopole des bonnes idées. Personne ne peut dire « Je tiens à ce que tu saches que je ferai ce qui me plaît. Je veux employer cette méthode. C'est ce que je ferai. » Chers amis, une telle attitude n'est pas celle d'un chrétien rempli de l'esprit. Se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ démontre que nous sommes remplis de l'esprit. Poursuivons notre lecture. Éphésiens chapitre 5, les versets 22 à 24. « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Le fondement de la soumission est une relation personnelle fondée sur l'amour. Le mot « soumettre » n'a pas le sens que l'on pense habituellement. En fait, son sens nous surprend lorsque nous prenons la peine de rechercher le sens du mot. Lorsqu'il s'applique aux épouses, il faut comprendre ce mot dans un sens autre que celui habituellement admis en général. Ce texte ne dit pas « Femme, obéissez à votre mari ». Le mot « soumettre » est beaucoup plus doux. C'est un mot qui a une connotation d'amour. Il signifie de réagir à votre mari comme vous réagissez au Seigneur Jésus. Nous aimons le Seigneur Jésus parce qu'il nous a aimés le premier. Notez que le texte dit « à son mari ». Le fondement de la soumission est une relation personnelle fondée sur l'amour. L'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens et il traite du mariage chrétien. Dans cette relation entre un mari et son épouse, c'est l'homme qui prend l'initiative et les décisions. C'est lui qui doit travailler pour faire vivre sa famille. Cependant, ceci ne lui donne pas le droit de se conduire comme un officier militaire dans son foyer. Son épouse doit réagir à son mari comme le croyant doit réagir au Seigneur Jésus. Ce doit être une relation d'amour dans laquelle l'épouse réagit à l'amour de son mari. Un jour, un homme vint voir son pasteur et lui demanda, « Pasteur, je désire que vous parliez à ma femme. Elle est froide avec moi et ne se comporte pas comme une épouse devrait le faire. » Cet homme ne se rendait pas compte qu'en faisant cette requête, il révélait le fait qu'il échouait dans son rôle de mari. Il montrait quelle sorte de mari il était pour obtenir une telle réaction de son épouse. Le pasteur lui demanda, « Récemment, as-tu dit à ta femme que tu l'aimais ?»« Non, répondit l'homme, elle sait que je l'aime et je n'ai pas besoin de lui dire. »« Au contraire, je crois que c'est nécessaire, » expliqua le pasteur. « Elle n'a pas besoin de t'exprimer son amour tant que tu ne le feras pas. » Un homme a une épouse froide parce que son cœur gelé l'a refroidi. La femme répond aux avances de l'homme. L'homme doit dire « Je t'aime ». Et c'est lui qui fait la demande. La femme est celle qui répond « Oui ». Une femme n'a pas à dire à son mari qu'elle l'aime tant qu'il n'a pas pris l'initiative de lui dire « Je t'aime. » Lorsqu'un homme a une épouse froide, c'est parce qu'il est un mari froid. Il n'est pas le mari qu'il devrait être. Il ne prend pas l'initiative pour lui exprimer son amour. La soumission de la femme doit être une réponse à l'amour de l'homme. Le concept de soumission sans amour ne vient pas de Dieu. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Comment est-ce que le Seigneur Jésus est le chef de l'Église? C'est une relation d'amour, et le mari est la tête afin que l'ordre soit maintenu. Nous voyons dans cette section que Dieu a établi une structure afin de maintenir l'ordre. Le mari est soumis au Seigneur, l'épouse est soumise à son mari. Les enfants sont soumis aux parents, et finalement, les serviteurs ou les employés sont soumis à leur maître ou à leur employeur. Mais ce doit être une soumission volontaire à quelqu'un qui t'aime. C'est ce type de relation que Dieu veut. S'il n'y a pas d'amour dans la relation, l'idée de soumission que vous avez ne vient pas de Dieu. Selon des pasteurs qui ont aidé beaucoup de couples éprouvant des difficultés avec leur mariage, les trois quarts du temps, c'est le mari qui est responsable des difficultés éprouvées. C'est à l'homme de garder la flamme attisée dans le couple. Dans le Cantique des Cantiques, le mari dit à l'épouse, « Que tu es belle, mon amie, que tu es belle !» Cantique chapitre 1er verset 15. « Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. » Cantique chapitre 2, verset 16. Notez que l'époux a exprimé son amour en premier et que l'épouse a réagi à cette expression d'amour. Certains pensent peut-être que mes propos sont idéalistes et romantiques. Mais c'est ainsi que Dieu a fait les choses dans le jardin d'Éden. Dieu a débuté avec une paire d'individus romantiques, Adam et Ève. Dieu n'a pas donné de femme à Adam tant que celui-ci ne s'est pas rendu compte qu'il avait besoin d'une aide. Dieu lui donna Ève, une aide, et la deuxième moitié d'un homme. Un homme sans épouse n'est qu'un demi-homme. Quelqu'un peut dire, « Pasteur, je ne suis pas cette sorte de personne, je ne suis pas un héros. » Mais Dieu n'a jamais dit que toutes les femmes tomberaient en amour avec toi. 99 femmes vont voir en toi que le garçon qui habite deux maisons plus loin dans la rue. Mais un jour, une femme te rencontrera et verra en toi le chevalier blanc. C'est Dieu qui produit cette chimie entre un homme et une femme. Maintenant, un mot pour vous, les jeunes femmes. Peut-être n'êtes-vous pas la plus belle des femmes. Dieu n'a jamais dit que vous attireriez tous les mâles. Seul un animal peut faire cela. 99 hommes ne vous prêteront pas attention, mais un jour viendra, un homme vous aimera si vous êtes la bonne personne pour lui. Vous deviendrez son inspiration. Il se peut que vous l'inspiriez vers la grandeur. Il écrira un livre ou il créera un chef-d'œuvre artistique ou musical. Peut-être vous dites-vous que je vous présente de la belle théorie et que je suis idéaliste. Cela semble beau dans les livres et les films, mais ça ne se produit pas ainsi dans la vie. Mais vous vous trompez. Cela se produit. Nous entendons parfois le proverbe qui dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Matthew Henry, un prédicateur et un auteur prolifique du XVIIe siècle, tomba amoureux d'une jeune femme de la noblesse. À cette époque, une licence de l'État était requise pour avoir le droit de prêcher ouvertement. Le père de Matthew Henry était un prédicateur dissident qui enseignait dans les foyers. Matthew Henry n'était pas assuré d'obtenir une licence pour prêcher même si un assouplissement de la loi était annoncé. Le père de la jeune femme essaya de décourager sa fille d'épouser le jeune prédicateur qui n'était pas riche. « Cet homme n'est pas de notre classe sociale, » dit son père. « Nous ne savons d'où il vient. »« C'est vrai, » répondit la jeune fille. « Je ne sais pas d'où il vient, mais je sais où il va, et je veux y aller avec lui. » C'est ce qu'elle fit. Nathaniel Ahern, auteur américain, était un employé de bureau dans la fonction publique. Il travaillait au bureau des douanes à New York et il fut congédié car il était un employé inefficace. Il entra chez lui et il s'assit. Son épouse entra et le vit dans son état de découragement. Elle mit son bras autour de lui et dit « Maintenant, Nathaniel, tu peux faire ce que tu as toujours voulu faire, écrire. » Il écrivit « Conte raconté deux fois » la lettre écarlate, la maison aux sept pignons, ainsi que d'autres œuvres. Voyez-vous, une femme peut être l'inspiration d'un homme, cela fonctionne. Les directives de Paul, de l'apôtre Paul au sujet du foyer, enseignent que le foyer chrétien doit illustrer la relation entre le Seigneur Jésus et son Église. La relation entre le Seigneur Jésus et son Église diffère de celle entre un mari et sa femme dans le sens que le Seigneur est la tête de l'Église et qu'il est son sauveur. Le mari n'est pas le sauveur de sa femme, mais pour ce qui est de la soumission, l'épouse devrait être soumise à son mari et au Seigneur Jésus. Poursuivons la lecture de notre texte, Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Aux yeux de Dieu, l'amour du mari et la soumission de la femme vont de pair. Dieu n'a jamais demandé à une femme de se soumettre à un homme qui ne l'aime pas, et qui ne l'aime pas comme le Seigneur Jésus a aimé son Église. L'amour chrétien est sublime. Aujourd'hui, les jeunes apprennent beaucoup au sujet de la sexualité et il y a d'innombrables livres qui traitent du mariage. Mais la plupart de ces livres sont inutiles. Seul un chrétien peut savoir ce qu'est le véritable amour dans un mariage, parce que cet amour est élevé au même niveau que la relation entre le Seigneur Jésus et son Église. Il n'y a rien qui atteint ce même sommet, mes amis. Verset 26. Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Le Seigneur Jésus sanctifie son Église. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est une action passée. Présentement, le Seigneur Jésus sanctifie son Église en la purifiant avec l'eau de la parole de Dieu. La parole surpasse de loin tout produit nettoyant annoncé à la télévision ou à la radio. Non seulement est-ce que la parole efface les taches de votre vie, mais elle vous aide à ne plus vous salir. Verset 27. pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. L'Église sera sainte et irréprochable le jour des noces. Dans l'avenir, l'Église glorieuse, sans tache, ni ride, sainte et irréprochable, paraîtra devant le Seigneur Jésus. Lorsque nous étudierons le livre de l'Apocalypse, nous verrons l'Église présente au Seigneur Jésus comme une épouse, parée pour son mari. Toutes les femmes sont belles le jour de leur mariage. Il m'est arrivé de rencontrer des épouses le jour précédent ou le jour suivant le mariage, mais elles n'étaient pas aussi belles que le jour du mariage. Le jour du mariage, elles sont vraiment belles. L'Église est fiancée au Seigneur Jésus et il la purifie au moyen de sa parole. N'oubliez pas que lorsque nous parlons de l'Église, nous ne parlons pas de bâtiments avec un clocher, une estrade et une orgue. Nous parlons du corps formé par tous les véritables croyants. Ce verset signifie qu'il purifie chaque croyant, qu'il les prépare pour le grand jour des noces. Je crois que c'est ce qui se produit présentement. Donc, nous avons vu le passé, le présent et l'avenir. Le Seigneur Jésus a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Il sanctifie l'Église en la purifiant par sa parole. Et un jour, cette Église paraîtra devant lui sans tache ni ride et elle lui sera présentée comme épouse. Alors l'Église sera sainte et irréprochable. Revenons au texte. Lisons Éphésiens 5, versets 28 à 31. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. J'ai cité tout ce passage afin que vous puissiez voir comment l'apôtre Paul utilise ces deux thèmes, passant de l'un à l'autre, mari et femme, le Seigneur Jésus et son épouse. Après avoir parlé du Seigneur et de son épouse, il revient sur le sujet du mari et de la femme. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Un couple a besoin d'être rempli de l'Esprit. Oui, chers amis, ce qu'un couple a besoin le jour de son mariage, ce n'est pas un banquet avec du champagne après l'échange des vœux. Les deux ont besoin d'être remplis de l'Esprit, de la présence de Dieu dans leur vie. Ainsi, ils auront la plus belle lune de miel qui soit possible. Ces jeunes qui parlent de sexualité, de relations extra-conjugales, ne savent pas ce qu'est le véritable amour. Ils en savent beaucoup au sujet de la sexualité, mais ils ne savent rien au sujet de la beauté, de l'extase et de la douceur d'un mariage chrétien. Le mari doit aimer son épouse parce que la relation maritale fait de l'épouse une partie de son corps. C'est semblable à l'Église qui est le corps de Jésus-Christ, et celui-ci en est la tête. C'est sur ce fondement que le mari est le chef de sa femme. Il n'est pas naturel pour un homme de haïr sa propre chair, donc le mari doit aimer son épouse, car elle est devenue sa chair. Le Seigneur Jésus, connaissant la faiblesse de l'Église, la nourrit et en prend soin. Les maris doivent aussi faire cela avec leur épouse. Quelle belle illustration! Quel bel exemple que le Seigneur Jésus nous a laissé en aimant sa propre Église, c'est-à-dire son corps. Il nous invite maintenant à faire de même dans notre vie de relation en ce qui a trait le mari et la femme. Un exemple que nous pouvons retirer diverses leçons. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Éphésiens chapitre 5, verset 31, à chapitre 6, le verset 1.
Merci Régent d'avoir apporté des éclaircissements sur un sujet des plus profonds est si souvent incompris. Nous avons tellement besoin d'approfondir notre compréhension de la soumission biblique et de l'appliquer dans toutes nos relations aujourd'hui. En effet, combien de personnes aujourd'hui ont souffert d'abus dans le passé? Abus de pouvoir d'un mari envers sa femme, ou d'un père envers ses enfants, ou d'un grand frère envers une petite sœur ou un petit frère. Et ces abus souvent continuent et sont répétés. Ces abus ont laissé des marques qui font encore mal même après plusieurs années. Alors souvent, juste entendre le mot « soumission » fait redresser les cheveux sur la tête de ces personnes qui ont été victimes d'abus. Et ça se comprend. On résiste à la soumission parce qu'on ne veut pas avoir mal. On a trop souffert. Il est donc si bon d'entendre la parole de Dieu nous enseigner qu'il ne peut pas vraiment y avoir de soumission là où il n'y a pas d'amour. Que le contexte de la soumission biblique, c'est l'amour. Que ce soit la soumission envers les dirigeants d'église, ou envers un frère ou une sœur dans la foi, ou la femme envers son mari. L'amour va de pair avec la soumission. Pour moi, personnellement, ce qui m'aide vraiment, c'est le modèle de la vie de Jésus lui-même. Lorsque je médite sur la vie de Jésus, je suis toujours impressionné par son modèle de vie. Il était lui-même Dieu, le Fils incarné, et il ne s'est pas imposé comme un chef militaire, mais il s'est de lui-même fait serviteur par amour. Il est venu pour servir, et non pour être servi. Et c'est par amour, pour vous et moi, qu'il a servi sa vie, en l'offrant librement à Dieu sur la croix du calvaire, afin que nous soyons sauvés de ce que nos fautes et nos péchés nous avaient mérités. Quel modèle d'amour! Je n'en reviens toujours pas. Jésus m'impressionne toujours. Et il est pour moi le modèle à suivre, que ce soit dans ma vie de couple avec ma femme, ou dans mes relations avec mes enfants, ou dans l'Église et la société en général. Jésus est mon modèle. Est-il votre modèle aussi? Et je m'efforce à le suivre malgré toutes mes imperfections. Et vous, Jésus est-il votre modèle aussi? En ce qui me concerne, Jésus comme modèle ne suffit pas pour faire de moi un homme qui aime vraiment et qui se soumet à l'autorité. J'ai besoin de sa force, de son amour en moi. C'est pourquoi je suis aussi tellement reconnaissant pour son esprit qui habite en moi par sa grâce et que Dieu a bien voulu nous donner pour nous aider à vivre chaque jour une vie soumise à lui d'abord et aux autres en autorité autour de nous ensuite. Bien que j'ai encore beaucoup de chemin à faire pour être comme lui, mon espérance c'est que Jésus s'est engagé envers tous ceux qui l'ont reçu par la foi à rendre parfaite l'œuvre qu'il a commencée en chacun de nous. Et il le fera, jour après jour, par son esprit, ressemblant de plus en plus à Jésus qui s'est soumis à son Père avec amour pour accomplir la mission qu'il avait reçue de Dieu.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Ben, qui es-tu, Caro?
Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'Évangile de Dieu. Avec toi, Réjean, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors, je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir. Et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux.
Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca ou l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.